Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous.
L'Église est le nouveau peuple de Dieu. Voici ce que nous avons appris lors de notre dernière émission. Et ce thème va, une fois de plus, alimenter notre discussion aujourd'hui.
En effet, nous nous sommes surtout appuyés sur le texte biblique trouvé dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, qu'il convient de réécouter.
Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de prêtres, rois, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce.
Merci. Tout chrétien fait partie du peuple de Dieu. Tout chrétien est lié aux autres par une histoire commune, l'expérience de la grâce de Dieu et de la délivrance accordée en Jésus-Christ.
Au début de ce texte, Pierre emploie d'autres images qui décrivent les qualités de ce nouveau peuple que Dieu crée en Jésus-Christ.
Oui, et ces paroles nous rappellent à quel point nous sommes un peuple privilégié. Pierre écrit à des chrétiens constituant une minorité dans leur communauté, souvent confrontés à la discrimination et à la persécution. Car souvent, le peuple de Dieu est malheureusement rejeté et méprisé par le monde qui l'entoure. Dans un tel contexte, Pierre désire nous encourager et nous rappeler qui nous sommes. En tant que peuple de Dieu, nous avons des privilèges considérables. D'abord, selon Pierre, nous sommes une race élue. Autrement dit, Dieu nous a choisis pour lui appartenir. Il s'agit là d'un mystère, mais aussi d'une merveille. Dieu a porté son choix sur le croyant et en Jésus. Il fait tout pour qu'il fasse partie de ce nouveau peuple. Ensuite, selon Pierre, nous sommes une communauté de rois-prêtres. Un prêtre est celui qui a le privilège de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour communier avec lui, pour jouir d'une relation intime avec lui. Quelle faveur et quelle joie! Car le peuple de Dieu entier jouit de ses droits et de ses avantages. Tous, nous pouvons nous approcher de Dieu, librement et avec confiance, car il nous accueille dans sa présence. Cependant, il faut préciser que seul le peuple de Dieu jouit d'un tel privilège. Ensuite, selon Pierre, ce nouveau peuple de Dieu est une nation sainte. La notion de sainteté est assez complexe, mais elle désigne ici des personnes ou des objets réservés et mis à part pour un service tout particulier. Par exemple, nous pouvons posséder certains habits ou bijoux que nous réservons pour des occasions spéciales. Nous pouvons aussi disposer de certains services d'assiettes que nous réservons pour nos invités de marque. Ces objets ou biens sont mis à part et réservés pour cet usage seul. De la même manière, le peuple de Dieu a été choisi et consacré. Nous lui appartenons. En tant que peuple saint, il nous a mis à part pour accomplir sa volonté, qui est, entre autres et selon Pierre, de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ. Nous célébrons ces œuvres merveilleuses, notamment la mort et la résurrection de Jésus, par la louange et l'adoration, mais aussi par la proclamation de ses œuvres au monde qui nous entoure. De plus, en tant que peuple saint, Dieu nous réserve un destin particulièrement extraordinaire. Nous passerons l'éternité avec lui. Cependant, la notion de sainteté comprend un deuxième élément, celui de pureté spirituelle et morale. Pensons de nouveau à ces habits que nous mettons de côté pour des occasions spéciales. Nous en prenons bien soin. Ils sont précieux. Et nous ne voulons pas les salir ni les tacher, nous voulons éviter toute déchirure, les protéger des mites et même des voleurs. De la même manière, en tant que peuple saint, nous devons chercher à éviter toute souillure morale et spirituelle. Dieu appelle son peuple à rechercher la sainteté. Voici les propos de l'apôtre Pierre trouvés dans cette même épître au chapitre 1, versets 14 à 16. « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de l'ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. » Oui, la sainteté, c'est laisser le Seigneur Jésus gouverner notre vie par sa parole, au lieu de toujours céder à nos mauvais désirs et à nos passions. La sainteté, c'est tendre vers la droiture, l'intégrité et la pureté de vie.
Merci Alain pour ces leçons importantes. Je voudrais maintenant vous poser des questions concernant notre identité en tant que peuple de Dieu. Nous savons que le nouveau peuple de Dieu est constitué de gens de toute race et de toute nation. Cependant, en devenant chrétien et en entrant ainsi dans le peuple de Dieu, nous ne cessons pas d'être européens ou africains. Et nous ne renonçons pas à notre nationalité. Nous faisons partie d'une nation ou d'une ethnie, aussi bien que ce peuple spirituel que Dieu crée. Alors Alain, quelle est la relation entre ces deux identités?
Oui, c'est une question importante. En effet, nous ne renonçons pas à notre pays ou à notre tribu ou à notre culture d'origine. Ces choses demeurent une partie intégrante de notre identité et de notre personnalité. Cependant, si nous faisons aussi partie du peuple de Dieu, notre regard sur notre propre peuple ainsi que sur les autres change.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
En bref, si nous faisons partie du peuple de Dieu, notre identité principale est celle d'être chrétien, et notre attachement principal est envers Jésus-Christ et son peuple. Il s'agit d'un changement d'orientation assez profond, et je voudrais parler de deux implications.
Et quelle est la première ?
Pierre affirme que le peuple de Dieu est saint et qu'il doit tendre vers la sainteté. Ainsi, si des traditions, des coutumes ou des pratiques présentes dans notre culture d'origine sont en contradiction avec la sainteté de Dieu, il faut y renoncer et cesser de les pratiquer. Parfois, nous nous sentons tiraillés entre deux devoirs. Mais notre premier devoir est envers Dieu et il faut laisser sa sainteté façonner nos cœurs et nos actions. Par exemple, j'ai appris récemment que pour certains peuples, il est tout à fait normal et accepté que les hommes aient une maîtresse et les femmes un amant. Cela me semble en contradiction avec la sainteté de Dieu qui nous appelle à vivre la fidélité et la chasteté.
Merci. Et quelle est la deuxième implication du fait que nous faisons partie du peuple de Dieu?
Je dirais que notre fidélité envers les chrétiens doit passer avant notre attachement envers notre peuple d'origine. Parfois, pour des raisons historiques difficiles, il peut exister des tensions et des hostilités entre peuples différents. Nous pouvons avoir des préjugés contre certains peuples, les regarder avec du mépris et pratiquer la discrimination. Or, dans l'Église, nous rencontrons des chrétiens issus de ces peuples en question, et nous sommes appelés à en vivre en harmonie avec eux dans la paix et l'unité. Car nous faisons partie du nouveau peuple de Dieu, nous devons apprendre à mettre de côté les anciens préjugés et à surmonter les conflits et les tensions qui peuvent exister entre les individus issus de peuples différents. L'apôtre Paul l'affirme bien dans son épître aux Colossiens chapitre 3 versets 11 à 13. Cédons la parole à Janine.
Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière.
Merci Janine. Oui, au sein du nouveau peuple de Dieu, les anciennes divisions doivent disparaître et être remplacées par le pardon, la réconciliation et l'amour mutuel. Nous devons arrêter notre discussion là et nous remercions Alain pour sa participation enrichissante.
Merci Yann. La prochaine fois, nous parlerons de l'Église comparée au corps de Jésus-Christ. En attendant, je dis à tous au revoir.
Merci Alain. À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série dans la première épître de Jean. Claude nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean chapitre 3, verset 3.
Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur.
Celui qui sait qu'il sera semblable à Christ le jour de la résurrection d'entre les morts cherche déjà aujourd'hui à être comme lui. Voici le sens du verset. Ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Mais comment se rendre pur? Aujourd'hui, pour donner un premier élément de réponse, je voudrais revoir quelques versets dans 1 Jean chapitre 1. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Le premier pas à faire, si nous voulons tendre vers la pureté, c'est simplement de reconnaître que nous ne sommes pas purs. Et selon l'enseignement de Jésus, ce n'est pas ce que nous touchons ou mangeons qui nous rend impurs. Car dans ce cas, il suffirait de se laver avec de l'eau et de s'abstenir de certains éléments. Non, notre impureté ne vient pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur, de notre cœur mauvais qui tend si facilement vers le mal et le péché. Nous préférons le nier, nous cacher cette vérité, car elle nous rend mal à l'aise. Toutefois, Jean nous recommande d'y faire face. Puis, il nous oriente vers la seule solution, confesser nos fautes, confesser notre impureté morale et spirituelle à Jésus, car lui seul peut nous purifier et nous pardonner, grâce à sa mort sur la croix. Et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis, pas seulement d'une partie, mais de tout. Nous vous encourageons alors à confesser vos fautes à Jésus, jour après jour, et à mettre votre espérance en lui, car lui seul peut vous purifier.
Merci Claude de nous avoir orientés une fois de plus vers Jésus et de nous avoir rappelé toute l'importance de son œuvre sur la croix.
C'est ainsi que nous devons terminer notre émission. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.